Les lectrices, les lecteurs de Lire et Faire Lire, offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire, https://lireetfairelire.laligue10.org, 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique podcast, bonne écoute et belle découverte.
Tu es quelqu'un d'exceptionnel, ma petite chérie, dit Olga à sa petite fille. Et en effet, dès la première de couverture, on comprend que l'on a affaire à une personnalité particulière. La petite sorcière, aux éditions Seuil Jeunesse, de Sébastien Pérez, illustré par Benjamin Lacombe. Le titre annonce directement le thème, sans fioriture. Mais il faut comprendre « petite » dans les deux sens. À la fois petite par sa taille et son âge, et petite car débutante, sans grand talent affirmé. Donc, vous n'allez pas lire une énième histoire de sorcière au pouvoir plus ou moins extraordinaire, mais bien plutôt une version un peu édulcorée, en parallèle avec un thème universel tel que l'acceptation de la différence. Le charisme de la jeune héroïne fait l'essentiel du charme de ce texte, certes un peu court, car on aurait souhaité une intrigue plus développée. Mais la beauté des illustrations de Benjamin Lacombe me semble combler ce manque. Lisbeth vient, comme chaque année à Noël, retrouver sa grand-mère dans sa vieille et imposante maison. Ah, Lisbeth se réjouit de retrouver sa grand-mère. C'est la seule personne de la famille qui la comprenne et ne la gronde pas tout le temps à cause de ses mauvaises manies. Car Lisbeth a la fâcheuse habitude de finir les phrases des autres avant qu'il ne les ait prononcées. Son maître la punit constamment, ses copines d'école ne lui adressent plus la parole et ses parents soupirent d'exaspération. Sa grand-mère, elle, pense que c'est un don. Lisbeth se précipite hors du wagon et elle se jette dans ses bras. « Oh, ma petite chérie, je suis si heureuse de me voir. Moi aussi, grand-mère, tu m'as tant manqué. » Elles regagnent ensemble la grande demeure victorienne. Ils n'ont pas déposé les bagages que déjà la sonnette retentit. « C'est Edward, le petit voisin. » Les yeux d'Edward pétillent dès qu'il aperçoit Lisbeth. « Ah, tu sais, j'ai complété l'herbier depuis la dernière fois. Il ne manque plus que les lébores, mais je suis sûre que cette année, nous allons le trouver. »«
Lisbeth, j'ai beaucoup
Pensez à moi. Oui, c'est adorable, Edward.
Et j'en suis sûre,
Je t'aiderai à trouver les lébores. Allons voir le livre de botanique au grenier. » À défaut de pouvoir magique, Lisbeth possède l'art d'anticiper la fin des phrases de ses interlocuteurs. Son jeune ami, Edward, qui est bègue, y trouve son content. Ces deux-là se complètent et ils ont une même passion. Ils partagent un herbier. Les images de Benjamin Lacombe nous entraînent avec délice dans la fantasmagorie qui le caractérise. Ses dessins, aux doux arrondis, aux couleurs tantôt feutrées, tantôt contrastées, ses superbes décors, ses portraits aux visages expressifs, éclairés par de grands yeux au regard insondable, transcendent le texte. Le duo Pérez-Lacombe a déjà signé d'autres albums, notamment « L'herbier des fées » et « La funeste nuit d'Ernest » aux atmosphères envoûtantes. Dans le grenier, Lisbeth fait une découverte qui va lui apprendre bien des choses qu'elle ne soupçonnait pas. Un vieux livre l'attire irrésistiblement. En feuilletant les pages, elle découvre avec surprise des dizaines de portraits de femmes, rousses pour la plupart. Lisbeth peut ressentir leur force rien qu'à les regarder. En parcourant le texte, elle comprend qu'il s'agit d'une généalogie, mais pas n'importe quelle généalogie, une généalogie de sorcières. Lisbeth parcourt la liste agrémentée de portraits de femmes qui furent pourchassées, brûlées, pour avoir été différentes ou inspirées. On y voit même apparaître des personnages historiques et une certaine Mona, peinte par Léonard de Vinci. Et pour finir, la fillette découvre avec stupeur le visage de quelqu'un qu'elle connaît bien, du moins qu'elle croyait jusque-là bien connaître. La mystérieuse disparition d'Edward dans la nuit va faire naître chez Lisbeth un autre pouvoir et la pousser à sa recherche hors du village, dans les gorges lugubres où l'entraînent des corbeaux. L'illustrateur saisit cette occasion pour nous offrir un bouquet d'images vertigineuses, en plongée, contre-plongée, avec une somptueuse envolée de corbeaux, dont la nuée noire contraste avec la chevelure de Lisbeth, devenue rousse. Leur regard fascine, comme tous les regards peints par Benjamin Lacombe. On les croirait porteurs de messages qu'il reste à comprendre. Cet artiste étant également auteur pour la jeunesse, j'aurai plaisir à vous présenter bientôt une autre de ses œuvres.
L'ours de Francis Thomas et Ruth Brown chez Gallimard. L'ours, c'est une histoire du temps passé. Du temps où jongleurs et bateleurs sillonnaient les villages pour les fêtes et les foires. C'est aussi l'histoire d'un homme sauvage et solitaire, un ours mal léché, que l'on a d'ailleurs surnommé ironiquement Monsieur l'ours, et d'un ours enchaîné et maltraité, qui, mieux que ce vieil homme mal aimé, moqué par les enfants, qui vit à l'écart du village, qui mieux que lui peut comprendre la souffrance et la solitude de l'ours danseur. Ces deux êtres vont se reconnaître et bâtir une vraie amitié basée sur le respect et la liberté. Je vais vous lire les dernières pages de cette histoire. L'ours a été transporté, endormi, derrière la maison du vieil homme qui l'a libéré de ses chaînes. L'ours ouvrit grand la gueule et bâilla. Il leva la tête et s'étira. Aucune chaîne ne le retenait plus au sol. Il n'était plus dans une cage mais sur de l'herbe tendre. Il fit quelques pas en chancelant. Il huma l'odeur délicieuse de l'eau. Il fit un pas, un autre. Rien ne l'arrêtait. Personne ne criait, personne ne le battait. Il avança lourdement dans l'eau et s'aspergea, d'abord doucement, puis plus vite. L'eau fraîche coulait le long de sa fourrure usée, dans sa gorge brûlante et dans ses yeux collés. Il s'ébroua et se souvint qu'il avait grand faim. C'est alors qu'il vit, assis tranquillement dans l'herbe, l'homme qui lui avait donné des pommes. L'ours ne savait pas encore que c'était un ami, mais il aimait les pommes. Maintenant, il y avait du porridge, des pommes, des noix, du miel. L'ours engloutit tout. Il n'avait rien mangé d'aussi délicieux depuis longtemps. Et il commençait à ne plus ressentir de colère ou de peur. L'ours et Monsieur l'ours se regardèrent, et Monsieur l'ours sourit. Le texte de cet album est magnifiquement servi par des illustrations à la fois très réalistes et très expressives. C'est superbe. Le métier de montreur d'ours, connu dès le Moyen-Âge, exercé originellement par des tziganes, s'est particulièrement développé au XIXe siècle, dans toute l'Europe et jusqu'au fin fond de la Russie. Il s'est surtout répandu à partir des régions montagneuses très pauvres, les Alpes et les Pyrénées pour la France. Le village d'Hercé dans les Pyrénées était connu pour son école des ours, où l'on apprenait le dressage. Aujourd'hui, cette activité a quasiment et heureusement disparu, sauf dans les cirques. Mais il me semble qu'il est important aujourd'hui de parler aux enfants du respect que l'on doit à la nature et aux animaux qui ne sont pas faits pour nous distraire et nous amuser.
Les lectrices, les lecteurs de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire https://lireetfairelire.laligue10.org 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique Podcast, bonne écoute et belle découverte.
Thème Radio, la plus locale des stations auboises.